Merci infiniment, chers collègues. Nous avons du temps pour la discussion. Donc, la parole est à celui ou celle qui souhaite poser la première question. Alors, plaisanterie classique de président de séance. La première étant difficile, passons directement à la deuxième. Alors, je vais peut-être me lancer pour initier la discussion avec deux petites questions un petit peu naïves, mais puisque vous avez beaucoup étudié cette doctrine de droit international japonaise de la deuxième moitié du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle, je me posais deux questions par rapport à des points que vous avez soulevés. Notamment, vous avez cité des ouvrages d'Arriga publiés en France. Est-ce qu'il s'agit de traductions d'ouvrages qui étaient destinés aux universitaires et au public japonais, ou est-ce qu'il y avait une volonté d'écrire pour la doctrine européenne ?
Je peux répondre tout
de suite. Bien sûr.
D'accord. Merci de votre question. Alors, à ma connaissance, alors, ils ont tous les deux écrit leur ouvrage en français ou en anglais. C'est d'autant plus, il y a l'aspect académique. En tant que chercheur, il a bien observé ce que l'armée japonaise a fait dans la marine ou dans la terre. Et on apprécie du point de vue de l'application du droit international de la guerre. Mais ce qui est important dans le contexte dans cette époque historique, c'est que montrer la capacité de japonaise pour obéir le droit international de la guerre et par conséquent obtenir la reconnaissance en tant que nation civilisée par les pays européens. C'est un but principal. Dans ce point de vue, il y a une convergence du gouvernement japonais dans cette époque-là et chercheurs qui a coopéré étroitement au gouvernement. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est la manière d'écrire ces ouvrages. Alors, tous les deux, commun, d'abord, ils ont admiré la civilisation occidentale. C'est splendide, c'est superbe, c'est une intelligence extrême, etc., etc., etc. Et après, alors, le Japon est maintenant bien que le même niveau. Si vous avez lu dans ce bouquin, alors, on s'est aperçu que Japon a reçu et digesté bien. Et maintenant, il a la capacité d'appliquer tout à fait pleinement. Et de temps en temps, il a proposé dans ce bouquin de modifier le droit positif dans cette époque-là pour réaliser la plus équitable solution. Par exemple, le traitement de biens et le traitement de prisonniers, etc., etc. Par conséquent, un principe internationaliste européen a beaucoup apprécié et en disant que le Japon est maintenant une vraie nation civilisée. Alors, le but diplomatique a bien obtenu grâce à ces bouquins. C'est pourquoi, parce que je pense qu'il y a aussi bien sûr l'aspect académique, l'aspect recherche positivistique, mais il y a aussi l'enjeu diplomatique, politique, c'est grand. C'est mon avis.
Merci beaucoup de nous éclairer sur ce point. Et comme les ouvrages doivent être disponibles dans quelques bibliothèques françaises, ça vaut la peine d'aller les lire pour bien saisir cette stratégie. Y a-t-il des questions, des observations, des remarques ?
Oui, alors j'ai peut-être une question qui s'inscrit dans le droit fil de ce qui a été indiqué à l'instant. La doctrine internationaliste japonaise, est-ce qu'elle connaît, comme en France, mais j'imagine que oui, je dirais une sorte de division interne. Est-ce qu'il y a dans la doctrine internationaliste japonaise des écoles ? Est-ce qu'il y a d'un côté les normativistes, les souverainistes ? Est-ce qu'il y a différents courants ? Alors, quels sont-ils, si tu les as en tête ? Et puis, également, est-ce qu'on retrouve des courants doctrinaux, des courants intellectuels en droit international public, hein, chez les Japonais, qui correspondent à ceux, et tu connais bien la France, que l'on a également en France. Comment se situe l'école internationaliste japonaise de ce point de vue-là?
Alors, l'état actuel, l'état dans cette époque de doctrine, à ma connaissance, alors, bien sûr, maintenant, il y a la tendance positiviste, c'est dominant, mais quand même, il y a autre tendance critique de droit, naturaliste, etc. Mais dans cette époque de Meiji, de la deuxième moitié du 19e siècle, au moins dans la sphère de droit international, alors on envisage la doctrine positiviste dominante dans cette époque-là en Europe. C'est on a introduit au Japon, et on a apprécié et on a appliqué en tant que norme de conduite pour le Japon. C'est pourquoi, si on compare le maintenant, dans cette époque de Meiji, parmi les internationalistes, il n'y a pas beaucoup de divergences, je crois, par rapport à maintenant. Dans d'autres domaines, c'est peut-être qu'il y a mon compatriote qui va préciser la divergence, convergence à propos de doctrine de chaque droit. Mais au moins, dans le droit international, bien qu'il y ait quelques minoritaires, doctrines minoritaires, qui a été influencées beaucoup, par exemple, la souveraineté, souveraineté du peuple de Jean-Jacques Rousseau, etc., etc. Mais c'est tout à fait minoritaire. Au niveau gouvernemental, c'est-à-dire s'il y a quelques forces au niveau de gouvernemental, dans ce cas, il n'y a pas beaucoup de divergences. On a étudié et on a importé la doctrine principale dominante dans cette époque-là en Europe, aux États-Unis.
Je refais une tentative pour susciter des interrogations, monsieur.
Pardon, articulez s'il vous plaît, je n'entends pas très bien.
Je vais te le dire, pardon, oui. Un petit peu plus fort. Alors pour vous, là, est-ce que vous voyez plutôt l'Europe avec plusieurs individualités, comme plusieurs pays, la France, l'Allemagne, etc., ou plutôt comme une union d'abord?
Est-ce que vu du Japon, l'Union européenne est une unité, ou est-ce que c'est une addition d'individualités qui fait une...
Union européenne actuelle?
Oui.
La vision du Japon vis-à-vis des lignes européennes actuelles. Ah oui. Ah oui. À mon avis, parce que moi aussi j'ai étudié, pas spécialement, mais en tant que étudiant de droit, le droit de l'Union européenne, droit de communauté européenne, etc. Et dans cette époque-là, les profs du Japon et les profs de français soulignent plutôt l'aspect sui generis de droit de l'Union européenne, c'est primauté de droit de l'Union européenne et jurisprudence de l'Union européenne, etc. C'est pourquoi je crois qu'a priori, il y a l'Union européenne, c'est en tant que le symbole d'intégration. En étudiant le droit de l'Union européenne. Mais bien sûr, maintenant, il y a autre aspect. L'aspect inverse est tout à fait distingué après le Brexit, etc. Et le déficit de démocratie, etc., etc. C'est pourquoi maintenant, cette vision harmonieuse et intégriste, on doit remise en cause. Et à partir de maintenant, je ne sais pas. Il y aura beaucoup de dangers pour le démantèlement de l'Union européenne, je crois personnellement. Mais d'autre part, si vous, les membres du peuple de l'Union européenne, êtes bien conscient de tenir compte de la vie et sentiment du peuple ordinaire, et à la fois garder toujours l'esprit idéaux de l'intégration de l'Union européenne, on pourra débrouiller la crise actuelle. C'est pourquoi, au début, dans ma jeunesse, j'ai gardé l'image de l'union, intégration de l'Union européenne. C'est plus fort. Et maintenant, on est remis en cause de cette image. Et la future, j'espère que tout à l'heure j'ai dit, en considérant le peuple ordinaire, peuple défavorisé, et à la fois maintenir l'esprit d'idéaux de l'intégration européenne, c'est très important, à mon avis. Oui.
Oui, bonjour Pascal Jean. J'interviens, je fais appel donc au spécialiste de droit international. J'avais une question, c'est pas forcément en relation directement entre le Japon et la France, mais la France est un membre permanent du Conseil de sécurité. Et je voulais savoir, dans la redéfinition de l'ordre mondial, quelle était la position de la doctrine au Japon, et notamment sur la réforme du Conseil de sécurité, et notamment des membres permanents. Parce que bon, il y a déjà eu des projets de réforme. Il y a des solutions possibles, notamment au niveau de l'Union européenne, même si ça n'aboutit pas. Mais quelle est la position de la doctrine du Japon, au Japon, précisément sur cette question de la réforme du Conseil de sécurité, dans la mesure où aujourd'hui, évidemment, les relations et le monde n'est plus celui de 1945. Merci.
Je dois répondre, oui. Alors, la réforme de la modalité de prise de décision au sein de la Conseil de sécurité, au sein du Conseil de sécurité, c'est tout à fait débattu dans la première décennie de 2000 ans. Et, bien sûr, comme vous savez peut-être, le Japon a posé la candidature d'être membre permanent de Conseil de sécurité. Mais ce projet n'est pas réalisé. Les barrières principales, c'est l'attitude de la Chine. Et la Chine opposait en constance que le Japon devienne le membre permanent du Conseil de sécurité. Et du point de vue de l'organisation internationale, il s'agit de révision de la Charte des Nations Unies pour recevoir nouveaux membres du Conseil de sécurité, membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, pour obtenir, pour réaliser la révision de la Charte, il faut toujours nécessaire le 5 membres, le voix favorable pour le 5 membres du Conseil de sécurité. Alors, si la Chine, un seul pays, a contesté, alors ce projet de devenir membre permanent du Conseil de sécurité pour le Japon n'a pas réalisé. Alors maintenant, c'est pourquoi à peu près 10 ans, on a discuté plusieurs projets de réforme, par exemple la remise en cause du système de j'ai oublié le mot tout à fait fondamental de Kyohiken, etc. Alors, vote de privilégié de 5 membres permanents, la réforme de ce système de votation, et membres du Conseil de sécurité, etc., etc. On a beaucoup discuté. Mais en fin de compte, en réalité, si on ne peut pas réaliser le d'accord de 5 pays permanents du Conseil de sécurité, cette réforme ne se progresse pas. C'est pourquoi maintenant, au Japon, je crois que le débat sur ce sujet, c'est maintenant pas très actif, et plutôt un peu nihiliste. Voilà. Et d'autre part, il y a autre partie qui est la tendance pacifiste. Pour eux, Alors, qui donnait beaucoup d'importance de l'article 9 de notre Constitution. De ce point de vue, adhérer ou à devenir le membre permanent du Conseil de sécurité n'est pas bon, n'est pas favorable pour la sécurité de notre pays. De ce point de vue, devenir membre permanent du Conseil de sécurité n'est pas bonne chose, n'est pas favorable. C'est l'état de doctrine du Japon à propos du Conseil de sécurité.
Je voulais parler de cette question que tu as évoquée, le fameux article 9, parce qu'il y a eu des lois qui ont été votées en 2005, plusieurs oui. lois qui ont été votées, qui font la relecture de cet article 9 et qui permettent au Japon d'intervenir. Et ce qui m'a étonné quand j'ai lu, enfin, je n'ai pas lu les lois elles-mêmes, mais des comptes rendus, c'est qu'il est possible, bien sûr, au Japon maintenant, à travers ces lois de 2015, d'intervenir à l'étranger dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Mais il est inclus la légitime défense. Possibilité, donc, si un allié, même pas le Japon attaqué, c'est normal, mais si un allié est attaqué, le Japon, en tant que légitime défense, il peut intervenir.
Légitime défense collective.
Oui. Alors, moi, la question est la suivante. Est-ce qu'il y a un mouvement, favorable à cette, peut-être, militarisation, c'est peut-être trop dire, mais enfin... On comprend avec des voisins qui sont un peu qui montent les muscles, c'est un peu difficile. Est-ce que donc il y a au niveau de la société, au niveau du Japon, cette volonté de militariser le Japon? Et deuxièmement, les juristes, les internationalistes, comme tu es, quel est leur point de vue sur ce chose?
Ah oui, c'est une question tout à fait actuelle et tout à fait intéressante. Il y a plusieurs publicistes japonais ici. Au moins, je crois que Mme Tateishi, il a catégoriquement opposé dans cette nouvelle loi. Il a été filmé et j'ai vu son image dans le YouTube. Alors, après, peut-être elle va intervenir. Et moi, en tant que... Oui, peut-être... Non, c'est sûr. Parmi les constitutionnalistes, la plupart des constitutionnalistes ont opposé dans cette loi. Et internationaliste, c'est un peu nuancé. Parce que je suis un peu gêné. Personnellement, j'étais contre cette loi. Mais si on va plus objectivement, alors, en tant que droit international positif, légitime défense individuelle et collective a été bien consacrée dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Alors, notre constitution, à notre manière, a limité de cette compétence d'État. Mais du point de vue du droit international, c'est tout à fait légal d'exercer le droit de légitime défense collective et individuelle. C'est pourquoi je suis un peu gêné, un peu nuancé. Mais quand même, si on étudie un petit peu l'histoire ou mise en œuvre de... légitime défense collective, c'est un droit très dangereux. Il y a toujours risque imminent d'abus. C'est pourquoi, en tant que politique juridique extérieure, je suis plutôt partisan de opposition de cette loi. Et d'autre part, du point de vue de constitution, il y a beaucoup de problèmes de constitutionnalité et une manière de modifier l'attitude du gouvernement, etc., etc. Il y a plusieurs problèmes procéduraux. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être vous demandez autre publiciste japonais.
On va intervenir, bien sûr, c'est le moment.
Merci Sébastien Holland, professeur de droit public ici à l'université de Tours. C'est pas véritablement une question, mais je réagissais au brillant exposé du professeur Nishumi. Il terminait par son intervention par une interrogation que je trouve intéressante et qui m'a fait penser à peut-être une manière un peu similaire qu'on a de poser la question à l'égard des écrits de Carl Schmitt. Carl Schmitt, qui a été le grand penseur de l'État total nazi, qui, pour cette raison, a été considéré comme infréquentable, en tout cas ses écrits, pendant de nombreuses années, avant qu'on redécouvre depuis, depuis quoi, une quinzaine, une vingtaine d'années, un peu plus peut-être, tout son apport à la réflexion alors fondamentale sur le droit constitutionnel, sur la théorie générale de l'État. Et je me disais que du coup, on peut peut-être trouver dans ce parallèle une réponse aux questions que vous posiez en fin d'intervention. Peut-être que ces auteurs, ces internationalistes japonais qui ont accompagné le Japon impérialiste, peut-être que ces auteurs ne sont pas complètement infréquentables à partir du moment où on est capable de faire une distinction claire finalement entre le contexte historique dans lequel ils ont écrit et puis ce qui reste de plus fondamental, c'est-à-dire leur rapport à une réflexion sur, sur un droit international qui en effet à bien des égards est très largement critiquable dans sa version historique. Vous avez dit les choses de manière un peu tranchée, forte dans votre exposé, mais j'ai le sentiment que si on se place sur n'importe quel autre continent que les continents européens et américains, finalement on en arrive au même constat. Le premier droit international est un droit fondamentalement de domination, un droit impérialiste. Donc peut-être que ce parallèle entre les internationalistes d'un côté et Carl Schmitt de l'autre, je ne sais pas, ça pourrait être une manière de répondre à la question peut-être que vous posiez en fin d'intervention.
Alors, je réponds à votre question. Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a grande influence de la pensée de Carl Schmitt aux internationalistes japonaises dans le grand zone prospère de Grande Asie orientale. Surtout Yasui Kaoru, j'ai énuméré trois personnes dans cette époque-là, dont le lance Yasui Kaoru. Il était en ce temps-là prof de l'Université de Tokyo. Il a étudié tout à fait attentivement Carl Schmitt. Et surtout, il s'intéresse à la notion de lui, c'est Grossraum. Et il a établi sa théorie de Daitowa Kyoeken, de zone coprospère de Grande Asie orientale. Et on pourrait dire qu'on a appliqué de cette théorie de Grossraum de Carl Schmitt au Japon, en Asie. Et dans ma bibliothèque, je ne sais pas si dans la bibliothèque de Tours c'est pareil, dans notre bibliothèque, au fond, il y a une petite section. J'ai trouvé, heureusement, la collection de la théorie de droit international de zone de coprospère de Grande Asie orientale. C'est-à-dire, dans cette époque-là, notre société japonaise de droit international a coopéré tout à fait étroitement au gouvernement. Et dans la société, au sein de la société, on a établi le comité de la zone de coprospère de Grande Asie orientale. Et il y a plusieurs éminents internationalistes a été membre du comité éditorial. Plusieurs bouquins, une série de bouquins a été publiée dans le cadre de ce comité. Et j'ai trouvé le petit livre de Yasui Kaoru, et j'ai lu. Et c'est sa manière de penser et son style est tout à fait intelligent. Et c'est très intéressant. Et dans le note, il a invoqué plusieurs, beaucoup de fois les œuvres de Carl Schmitt. Et c'est pourquoi, comme à la fin de conclusion, j'ai dit que subjectivement, il a, avec bonne conscience, il a coopéré et il a pensé en tant qu'internationaliste. Mais hélas, il ne savait pas la réalité dans cette époque-là. C'est pourquoi, après la Deuxième Guerre mondiale, il a été obligé de démissionner de la professeure de la faculté de droit de l'Université de Chuo. Et j'ai lu ce qu'il a écrit dans le journal de l'université, le dernier jour avant son départ de l'Université de Tokyo. Alors, il a rédigé ses sentiments et il a exprimer critique à l'égard de soi-même, mais à la fin, il a écrit que c'est tout à fait impatient d'être critiqué que j'étais collaboré au début de cette guerre d'agression. Je n'étais pas ça, il a écrit. C'est un peu impressionnant pour moi. C'est pourquoi, dans ma conclusion, j'ai dit mon sentiment. Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup d'influence de Auschwitz.
Est-ce que vous pensez qu'un jour il y aura une union asiatique, comme il y a un petit peu pour l'Union européenne, ce qui facilite un peu la circulation et tout ça? Est-ce que ce sera possible avec l'Asie et un rapprochement avec la Chine ou d'autres pays comme ça?
C'est une bonne question. Il y a à peu près 20 ans, lorsque j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, le professeur de droit international m'a posé la même question. Alors, Maki, et maintenant, il y a l'Europe, il y a progression d'intégration. Pourquoi l'Asie, surtout l'Asie de l'Est, c'est pas possible? Alors, j'ai réfléchi et j'ai répondu. Et peut-être la raison principale que dans l'Asie, l'Asie-Est, ce phénomène ne se progresse pas. Et la raison principale, c'est toujours valide jusqu'à maintenant. D'abord, il n'y a pas de consentement politique parmi les membres de cette région. Le Japon, la Corée du Sud et la Corée du Nord, c'est évident, et la Russie et la Chine, c'est tout à fait diversifié. Il n'y a pas de l'esprit de créer la vraie communauté des États, communauté économique, etc. Ce sentiment n'existe pas. Cette volonté n'existe pas dans cette région. Et plutôt, les divergences sont tout à fait apparues maintenant, comme vous savez. Je crois que pour faire progresser l'intégration des États, il faut d'abord la volonté politique pour faire ça. Et cela n'existe pas dans l'Asie de l'Est. C'est pourquoi, bien que dans le niveau académique, les économistes et juristes disent de temps en temps, proposent de temps en temps cette communauté, mais en réalité, c'est très difficile pour le moment, je crois.
Je crois qu'il n'y a plus de demande de parole. Nous avons donc une pause qui est prévue, Pierre-Yves, d'une demi-heure.
À peu près, voilà, c'est ça.
Très bien.